Bonjour et bienvenue dans Catharsis, le podcast qui parle de films avec émotion.
Et avec une voix sensuelle.
Le thème du jour, la moustine. Oui, mon but c'est que tout le monde se sente hot, chaud, sexy ou juste un petit peu excité. En tout cas, c'est l'état dans lequel nous a mis ces films. Et avant de commencer, je vais présenter les petits loustiques qui sont autour de moi. Je suis Jazia et je suis accompagnée par Emma.
Salut.
Christopher.
Super, califragilistique espidalisiosios.
Wow.
Respect.
Et Agathe.
Bonjour.
Alors oui, déjà, présentation de mes chaussettes. aujourd'hui, je porte des chaussettes en moutmout bleu avec des petits cercles roses. Enfin, c'est magnifique. Vous êtes fascinés par tout ça.
On est loin de la sexiness de Les Moustillons.
Oui, c'est vrai. Je
ne sais pas. Dans un instant, ça va arriver.
Ça
va arriver.
Moi, je suis rouge, la paillette, ça marche.
Alors, petite définition de Les Moustillons avant de commencer. Exciter quelqu'un, le mettre de bonne humeur ou provoquer chez lui une excitation sexuelle.
Mettre de l'euphorisme, mettre. Rendre heureux quelqu'un, waouh.
Merci pour cette citation, Larousse.
Mais Larousse, voilà. C'est mon ami.
Spéciale dédicace à Rémi.
Oui, qui adore qu'on donne les définitions de nos thèmes. Mais c'est pas grave. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec Emma qui nous présente La Belle et la Bête de Jean Cocteau avec Jean Marais et Josette T.
Oui. On n'aurait pas forcément choisi ce film à la base. Hein. C'est pas rempli de femmes très peu habillées, c'est pas rempli de, comment dire, de beaux gosses auxquels on a l'habitude. Même si Jean Marais à l'époque c'était
un beau gosse.
Ouais,
on va pas se mentir,
voilà, carrément.
C'était l'homme le plus beau du monde. Enfin, je cite des magazines d'époque. Hein, c'est...
Il y avait aussi Gérard Philippe un petit peu.
Mais... Voilà, un petit peu, mais Jean Marais c'était quand même la grande classe. Alors, pourquoi j'ai choisi ce film ? On n'y pense pas au premier abord, mais en fait, on se rend compte que la totalité du film tend vers ça. Je vais juste faire un rapide résumé de l'histoire.
Il est sorti quand, le film ?
Il est sorti en 1945.
Ah oui ?
Donc, ça date un peu, il est complètement en noir et blanc, ils ont énormément de problèmes techniques. Donc la lumière c'est compliqué quand t'as pas d'électricité, le son c'est compliqué avec le matériel de l'époque, avoir des draps blancs pour faire tes scènes c'est compliqué, genre il y a une scène à un moment dans un endroit où il lave le linge etc, c'était compliqué de faire cette scène, voilà, donc on s'imagine le tout le bazar qu'il y a autour de ça. Cela dit, donc l'histoire, c'est l'histoire de Belle, qui est une jeune femme tout à fait modeste et sympathique dans un petit village. Son père est un riche marchand et elle a deux sœurs. Donc deux sœurs qui sont un peu acariâtres. Elles sont présentées assez rapidement et on pense tout de suite à Cendrillon, on pense tout de suite à ce genre de famille sympa. Le père, donc riche marchand, il a malheureusement récemment perdu un bateau, ce qui fait qu'il est ruiné, d'autant qu'il y a il a aussi un fils qui est très joueur et qui a perdu toute la fortune au jeu, et qui évidemment a mis en hypothèque les biens de son père. Enfin, voilà.
Logique.
Normal.
Vive la familia.
Du coup, le père, désespéré, il doit faire un aller-retour justement pour aller voir, parce qu'apparemment un seul bateau aurait réussi à arriver à bon port. Il y va, finalement non.
Tristesse.
Tout va mal. Il revient, et en passant par la forêt, il se trompe de chemin, c'est la tempête, et il arrive au château de la bête.
On peut pas avoir confiance en vous.
La loi de Murphy.
Il se prend tout, je crois qu'il pleut aussi. Et il arrive au château de la bête, on la voit pas tout de suite, donc le père s'installe, il dîne dans le château, le château a l'air de fonctionner tout seul. Hein. On se souvient du dessin animé, hein. Tous les objets sont animés, la bouffe apparaît dans les assiettes.
C'est Poudlard.
C'est Poudlard, mais en plus glauque. Hein. Les chandeliers, c'est quand même des bras qui sortent du mur.
Ah, c'est un préquel alors.
Voilà, c'est un préquel. Et à l'époque, c'est des vrais gens, donc c'est assez intéressant de voir les statues aussi, que c'est un vrai genre. L'ambiance est vraiment fantastique, c'est du fantastique, clairement. Donc ce père, voilà, qui rencontre la bête au tout dernier moment, la bête qui le laisse partir en lui disant « Ok, je te laisse partir, mais seulement si une de tes filles accepte de te remplacer en otage chez moi. » Ok, très bien. Le père dit oui, bizarrement, cette scène est extrêmement bizarre quand tu la regardes au XXIe siècle. Il dit oui, ok, bah écoute, je vais rentrer, je vais voir si une de mes filles est d'accord. Il revient, il fait un peu de passif-agressif, chantage émotionnel en mode oh, je suis vieux, je suis malade et tout, en plus il pleut, machin. Et ta belle, évidemment, modeste, hein, etc., qui lui dit écoute, je vais y aller à ta place, ouais, fais pas chier, tu me racontes des conneries, je vais y aller.
Parce que moi j'ai des couilles.
Est-ce qu'elle a des couilles? Elle a des gonades. Mais donc elle y va.
Il y a toujours au moins une personne badass dans une famille. Bah, avec la famille qu'ils ont, hein, il en fallait au moins une.
Voilà, ils sont un poil gratinés quand même. Donc elle y va, elle rencontre la bête. La bête en passant, qui est un espèce de lion à corps humain, chelou avec des griffes de partout. Enfin, suintant, qui chasse les trois quarts du temps pour aller bouffer, qui revient plein de sang tous les soirs. Enfin voilà. Et la bête qui, tous les soirs, lui demande si elle veut l'épouser.
Voilà. Le bachelor.
C'est un peu l'histoire.
Juste, je pense que la bête, c'est ce mec qui pense que non, ça veut dire
en fait,
quelle usure tu peux avoir. Tout.
Je pense qu'on va faire une analyse du 21e siècle dessus. C'était pas l'idée de Jean Cocteau, parce qu'au fait... En fait, au début du film, il nous demande réellement de suspendre en fait, notre incrédulité. Il y a un texte entier qui défile au début et qui explique que c'est, tout ça c'est du rêve, que le cinéma c'est du rêve, que c'est censé nous amener ailleurs. Et à la fin, il dit « Laissez-moi vous convaincre en vous disant une simple phrase, il était une fois. » Et en fait, il démarre son film comme ça. Et « Il était une fois » te dit tout de suite « D'accord, je suis dans un conte. Je laisse de côté mon quotidien, je laisse de côté ce que je sais des histoires, je laisse de côté ce que je sais de mon monde en fait, et je rentre dans l'imagination de quelqu'un d'autre qui sera peut-être aussi la mienne. » Et c'est là où en fait je pense qu'on peut rentrer dans la partie émoustillement, c'est comment un film fonctionne et nous amène à ressentir des émotions en fait. Quels sont les différents procédés, comment on y arrive, comment on se dit ce film est raté, j'ai vu deux personnages pendant 2 heures l'un à côté de l'autre faire des choses héroïques etc, et à la fin ils s'embrassent et j'y crois pas une seule seconde. Et à côté de ça, tu vois La Belle et la Bête. Où,
et qui est Valérian.
Voilà, par exemple.
Surtout que lui aussi, il harcèle. Il y a un héros masculin qui harcèle un héros féminin pour que le héros féminin l'épouse.
Donc on est là, voilà. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi dans certains films ça marche? Pourquoi dans La Belle et la Bête ça marche? Alors qu'on l'a dit juste avant, hein, en le voyant aujourd'hui, il y a des petites problématiques quand même de creepiness, on va dire. pourquoi ça marche? Bah en fait, je pense que le réalisateur, il a sa portée tout un tas de techniques qui font que ça fait écho à nos propres expériences, ça fait écho à notre ressenti profond, ça fait écho à plein de choses. Et là, ce dont on se rend compte dans La Belle et la Bête, c'est que certes, tous les soirs, il lui dit « Est-ce que vous voulez m'épouser ?» Mais ça vient vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire que la bête... est quand même pas méchante, enfin voilà, c'est pas quelqu'un de méchant, il est même plutôt, voilà, après il faut pas le lire avec le 21e siècle tout de suite, mais il la couvre de cadeaux, il est gentil avec elle, il ne veut que son bien finalement, il s'impose pas à elle, il se voit que à 19h tous les soirs pour dîner, il n'impose pas du tout sa présence, et elle, comme elle est quand même voilà, modeste, sensible, un grand cœur, etc., elle se dit au bout d'un moment, bon, bah, il a l'air quand même malheureux, d'avoir un problème, enfin, je pense pas qu'on naisse avec une tête de lion comme ça, c'est bizarre. Donc il y a ce côté-là. Donc les personnages, en fait, leur personnalité font qu'on commence à y croire, c'est probable, du fait de leur caractère. Après, t'as tout ce côté où à un moment, la belle doit repartir, son père est très malade, elle doit repartir, la bête la laisse partir, à contre-cœur, parce qu'il sait que lui, vu sa malédiction, etc., ça va le tuer. Mais il y a la distance qui s'installe, mais c'est dans ces moments-là où la présence commence à encore plus s'installer. C'est-à-dire que quand elle est au château, ils se touchent pas, jamais. Ils sont pas proches, jamais non plus. À un moment, elle lui donne la main pour se balader dans le parc, mais c'est pas grand-chose. Et quand elle part, il y a vraiment... Voilà, elle commence à... Elle a ce miroir qui lui permet de voir ce qui se passe au château, donc elle caresse le miroir, elle est là, elle est un peu triste. Tous les cadeaux qu'elle lui a offerts, c'est vrai qu'elle se frotte dedans, etc. Tout ça ne sera pas mis en extrait, parce qu'en extrait vidéo, c'est juste un frottement tissu, hein, je peux vous le faire avec le... Voilà, avec le micro, j'étais contre mon pull. Il y a un point de retournement assez clé, là je ne sais plus si c'est avant qu'elle parte ou après, je suis désolée, mais en gros, il y a un moment où ils se promènent aussi dans le parc, et la bête a soif. Et au lieu de se jeter dans le lac pour boire comme une bête, en fait, elle lui donne à boire dans ses mains. Et franchement, c'est le passage, c'est le point de retournement. Le son, là, cette fois, on va vous le mettre, il est absolument horriblement caractéristique et, comment dire, ça va vers de la sensualité qui est vraiment bizarre. C'est vraiment... voilà, il lui boit dans les mains, ça fait un bruit de lapement assez caractéristique. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de ce qu'a le réalisateur à sa disposition, c'est le son. C'est des sons voilà, qui nous mettent un peu, qui nous gênent un petit peu, mais on sent que quelque chose est en train de se passer. Il lui boit quand même dans les mains, c'est pas anodin. Tu fais pas ça tous les jours avec un mec que tu dragues,
ouais.
Tu vois, c'est très intime. Voilà, nous on a d'autres techniques. Hein, au cinéma, tu te mets à côté de la personne que tu veux draguer et tu commences à lui toucher le coude sans faire exprès. Enfin voilà, c'est des choses comme ça, mais c'est dans ces moments-là où tu commences à te dire. Ah, il y a un contact physique, ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense que dans La Belle et la Bête, c'est aussi pour ça qu'on y croit. C'est parce que ça vient progressivement, ça monte. C'est des moments où, en fait... alors, je vais dire des moments qu'on a tous faits, mais ça va faire hyper chelou. Mais en vrai, quand la personne que t'aimes ou que t'as envie de voir au plus profond de toi a oublié son pull chez toi, bon, bah, tu fous ton nez dedans et tu fais remonter son odeur, hein, tu vois. Ok, je suis la
maintenant,
même
plus chelou. J'imagine Creepy Emma, maintenant.
Non, mais voilà,
c'est ton précieux.
C'est mon précieux.
Je te juge pas, j'ai fait donc.
Ah, bah, tu vois, on est d'accord. Donc,
moi, c'est Pierre. On s'était pris dans les bras et du coup, j'avais mis le vêtement que je portais dans un tupperware.
What?
J'adore parce que je suis à un degré de creepiness qui a un ou deux fois sur 10. Et Agathe, elle a 11.
Alors, du coup, j'ai des questions à poser là-dessus.
Sur l'échelle de 1 à 10.
Faisons un aparté.
Et combien de temps tu l'as laissé dans le tupperware et combien de temps l'odeur est restée dans le tupperware?
Ça n'a pas marché, juste un jour.
Donc, voilà. Acheter des tupperware un
ça
peu
marche
plus
pas.
Efficace. Mettez au frigo, peut-être ça marche mieux. Mais ouais, non, sur une échelle de 1 à 10, tu vaux au moins 11, Agathe. Donc, Yago, dans Aladdin. Voilà.
J'étais jeune. Voilà.
Citation de haut niveau. Mais voilà, je pense que c'est ça qui fait qu'au cinéma, on y croit. Je pense que c'est un réalisateur aussi qui arrive finalement à nous transporter dans un monde imaginaire, dans sa propre imagination, dans sa vision, mais qui arrive à se raccrocher à des éléments réels qui font qu'on y croit. Mm-hmm. Il y a vraiment cet aspect-là. Et je pense que dans certains films, ça marche pas. J'ai pas d'exemple comme ça, mais c'est quand c'est trop soudain. Par exemple, c'est des films où les personnages cavalent d'un bout à l'autre du film pendant 2 heures et à la fin, ils se prennent la main et ils s'embrassent. C'était là, genre, bah non, fais pas ça. C'est aucune incompréhension totale. C'est comme si dans le Star Wars là, qui s'appelle... Rogue One, c'est comme si à la fin ils s'étaient embrassés, ça aurait été super bizarre.
J'ai eu un peu peur à un moment.
Moi aussi, j'ai eu super peur.
C'était bien.
Et c'était bien qu'ils le fassent pas. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font que le cinéma fonctionne. Un autre truc sur La Belle et la Bête, si vous avez vu aussi Peau d'âne, c'est très étrange, c'est les mêmes films en fait.
Peau d'âne de Jacques Demy.
Ouais, Peau d'âne de Jacques Demy, c'est les mêmes films et en fait tu t'aperçois en lisant autour des films que Jacques Demy a admiré en fait Cocteau. Et il y a beaucoup trop de choses qui sont identiques en termes de...
Il y a du Jean Marais déjà.
Il y a du Jean Marais tout à fait, qui est aussi également creepy puisqu'il demande sa fille en mariage quand même.
Oui.
Alors en lui disant bah, si tu veux pas m'épouser, écoute, va y avoir des soucis. Voilà. Donc elle, en contrepartie, elle fait creepiness plus 20 000, genre ouais, tu niques ton âne banquier puis tu me le files. C'est assez affreux. Mais ouais, l'âne qui fait quand même la richesse du royaume, hein, il le bute et elle se cache dedans. Tu l'as pas vu ?
Elle se prend pour Leonardo DiCaprio. Non, du coup, c'est Leonardo DiCaprio qui se prend pour Peau d'âne dans The Revenant.
Mon Dieu ! Oui, ah. Là, ça va loin, mais c'est les références, exactement. Mais dans Peau d'âne, vous verrez des ralentis. Voilà, des ralentis assez éthérés, avec des robes qui flottent dans le vent, etc. On retrouve... C'est la même chose que dans La Belle et la Bête. C'est assez impressionnant. Et pas mal d'autres éléments, et notamment le Jean-Marie Creepy dont on vient de parler. Et... Ouais.
Non, mais j'avais juste un... J'ai vu une chaîne YouTube que je suis de Lindsay Ellis, et elle abordait La Belle et la Bête, mais la version Disney.
Ah, ouais.
Et,
alors, la version dessin animé ou la version avec Emma Watson?
Bah, du coup, elle comparait les deux.
D'accord. Ah,
elle parlait de plusieurs versions du film. Elle a un peu parlé aussi de celle de Cocteau. Mais elle parlait du syndrome de Stockholm, parce qu'on dit souvent que...
Ah, bah oui.
Que, bah, du coup, La Belle, elle est complètement en plein Stockholm mania. Et ce qu'elle expliquait, c'est qu'en fait, non. C'est pas un syndrome de Stockholm qu'elle a, c'est le syndrome de l'infirmière.
Exactement.
Et le syndrome de l'infirmière, c'est le fait de vouloir toujours aider les... Alors du coup, souvent c'est dans les couples, et c'est ton conjoint, et c'est le fait que ton rôle,
prendre soin
de la personne en face. Et du coup, tu vas avoir aussi la tendance à aller vers des gens qui sont cassés.
Qui sont en difficulté, voilà. Et ça te donne de l'importance aussi, donc c'est un poil malsain.
Ce syndrome est mentionné dans Retour vers le futur.
Ah bon ?
Dans le premier. Lorsque McFly, c'est ça ?
Oui.
Explique la relation qu'a ses deux parents au doc. Le doc lui dit « Ah, mais oui, c'est le syndrome de l'infirmière. Ta mère a voulu soigner ton père. »
Ouais. Bah, en fait, c'était dans mes notes, effectivement.
Ah, pardon.
Syndrome de l'infirmière. Ah non, tu fais bien de l'aborder. C'est des choses que... à la fois, j'y pense tout de suite en voyant ce film. À la fois, j'ai presque pas envie d'en parler parce que c'est un... C'est un très beau film, il y a plein de trouvailles, le noir et blanc est magnifique, il y a plein de trouvailles dans les décors. D'ailleurs, encore petite parenthèse sur Podane, mais les décors pareil, hein, les bras qui sortent des murs, les statues qui sont en fait des vrais humains, etc. On le retrouve dans Podane, c'est un vrai hommage quoi finalement. Mmh. Et ouais, j'ai presque pas envie d'en parler, notamment à cause du Il était une fois du début, à cause du fait que c'est un conte qu'on connaît tous. Après, la morale, j'ai du mal à l'extraire, effectivement, parce que, pour moi, la morale, quand je la lis aujourd'hui, je me dis « Ah, bah, c'est bon, t'as beau être moche, mais si t'es riche et que t'insistes un peu, bah, c'est bon, t'as la meuf, quoi, mais... »
C'est un peu Fifty Shades of Grey, non ?
J'ai pas envie de le lire comme ça. Il y a trop de boulot sur ce film. Il y a trop de Jean Marais qui met 6 heures pour se faire maquiller, qui s'est fait une crise d'eczéma de 3 semaines parce que bah, le masque c'est des poils. Et puis, tu vois.
Il y a eu plein de trucs entre Jean Cocteau qui était malade et qui a failli mourir sur le tournage parce qu'il fallait qu'il aille se faire soigner.
On
l'a forcé à l'hôpital plusieurs fois. Et puis surtout, c'est un film d'après-guerre.
Ouais.
Et ils ont galéré avec les lumières naturelles parce qu'ils avaient, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y avait des problèmes d'électricité, donc ils ont du tout filmé en vraie lumière. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de choses du décor qui fonctionnent, mais qui sont juste là parce qu'il n'y avait pas le choix, quoi.
Ouais,
ça c'est tout c'est à fait.
C'est trop de galère sur ce film, et après je me dis, quelle est la morale du conte ? Si je reprends le livre initial, donc le conte qui a été écrit par une femme en plus, je crois. Que nous dit ce conte en fait ?
Oublie que t'as aucune chance, insiste.
J'ai pas envie
comme
de voir ça.
Michel
je
Blanc.
Pense que...
quelques.
Je pense
c'est un malentendu.
Que...
C'est
un malentendu. Sur la beauté intérieure.
Je pense qu'il y a un truc sur la beauté intérieure. Je pense qu'il y a un truc sur voit plus loin que les apparences. Mmh. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui dit. La récompense viendra en fait quelque part, c'est-à-dire que la belle elle est résignée au début, elle se dit bon bah j'ai pas le choix, et au final c'est elle qui épouse voilà le prince riche qui habite dans un royaume, il s'envole à la fin quand même, hein, effet spécial incroyable. Je pense qu'il saute d'un endroit et que l'image est passée à l'envers. C'est assez impressionnant les tissus qui il y a exactement ça dans Podane aussi, c'est vraiment frappant. Enfin,
Podane c'est un remake,
presque, ouais, mais voilà, donc je pense que voilà la morale c'est plutôt ça. Il faut le voir comme ça, même si aujourd'hui c'est très très compliqué de le voir comme ça, c'est assez compliqué, mais bon voilà, ça reste normalement dans l'idée un film qui est sur la rencontre de deux êtres qui viennent à se connaître, qui en viennent à s'apprécier, à s'aimer et à partir ensemble en fait, et ça passe par voilà par des contacts physiques anodins au début puis qui se renforcent, ça passe par le dialogue, ça passe par beaucoup de choses, et c'est hyper intéressant. J'avais fait un parallèle aussi avec Cyrano de Bergerac, parce que Cyrano il aime sa cousine donc Roxane, mais Roxane aime plutôt un bel âtre qui n'a aucun esprit, même s'il est très gentil, hein, ça n'empêche pas l'autre, mais c'est Cyrano donc qui écrit toutes les lettres de cet individu, et Roxane en fait tombe amoureuse via les lettres. Et donc le contact, il se fait par ses lettres, il se fait par... voilà, l'émoustillement de Roxane naît de ses lettres, de cet écrit, donc t'as un contact interposé qui est assez distant. Et c'est très drôle dans le film Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, à un moment elle lit une lettre, donc je l'ai mis en extrait. « Croyez que de vers vous mon cœur ne fait qu'un cri, et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. » Et là elle s'évanouit, et c'est très très drôle dans le film, c'est hyper bien fait. Mais voilà, elle est émoustillée d'un rien, en fait. C'est une lettre. C'est une lettre, mais qui dit des choses vraiment très fortes. Enfin, c'est, en gros, bon, bah, je te veux, quoi. Mais je trouve ça assez génial, parce que dans ces films-là, dans ces films un peu à l'ancienne, l'émoustillement passe par là. Il passe pas par des couleurs fluo, il passe pas par des décolletés indécents, il passe pas par des choses ridicules comme deux personnes qu'on va danser en boîte de nuit en collet serré qui après se jettent dessus et s'embrassent en se mangeant la bouche. Enfin, c'est... Pour moi, là, on n'est plus dans les moustillons, on est dans la quasi-pornographie, il n'y a plus de subtilité. Pour moi, en fait, au début, tu sais, t'as donné la définition excitation sexuelle, et c'est vrai que pour moi, c'était plutôt excitation sensuelle. Mmh. Dans le sens où c'était plus délicat, c'était plus en surface, c'était plus... Disons qu'on est plus dans le début d'une relation où tu sais pas encore si l'autre y veut ou pas, et où tu te dis, ah, y a une chance, y a pas de chance, t'es un petit peu entre les deux, mais en même temps,
C'est jeudi tâtonnement,
tu cherches les signes, ça te brûle la peau quand ils te touchent, et voilà. Et les moustillons, c'était plutôt ça, pour moi, qu'excitation sexuelle. Et c'est pour ça que je trouvais que La Belle et la Bête se prête tout à fait à ce genre de définition. Voilà, si on le lit comme ça, c'est un très beau film.
Bah merci beaucoup. Et ben, il va falloir que j'arrête.
Pas grave, c'était Emma.
Donc.
Merci beaucoup, Emma. J'ai un problème. Voilà. Et bien, vu que je cite Agathe...
Je vais enchaîner. Hein. C'était une très bonne transition.
Alors du coup, tu vas nous parler de La Saveur de la Pastèque de Tsai Ming-Liang avec Li Kang-shen et Chen Xiang-chi. Je viens de massacrer l'intégralité des noms que j'ai prononcés.
C'est un poil raciste parce qu'on entendait quand même Ching Chong-gi.
Tu veux lire la liste des noms?
C'était un poil moyen quand même.
On vérifie qu'elle n'a pas inventé les noms.
Alors, version d'Emma, attention.
Tsai Ming-Liang, normal. Ki Kong-cheng. Chen Xiang-chi.
Nous sommes donc désolés pour cette intervention. Et,
On est tous racistes, c'est enfer.
Ah non. Du coup, c'est un film érotique musical et j'ai assez hâte d'entendre ce que Agathe va nous dire dessus. Et je suis vraiment désolée pour toute la communauté.
Alors, comme toutes mes chroniques, je vais commencer par un petit moment perso.
Creepy ou pas ?
Alors, creepiness numéro 2.
Non, mais attendez, mais là, vous êtes trop dans l'expectation, là. Oh. J'ai... Hein ?
T'as mis l'échelle tellement haut, on peut pas...
Bon, j'y reviendrai en fin de chronique. Alors, je sais pas si vous vous souvenez des premiers temps d'Internet, quand tu essayais... moi, par exemple, quand j'ai essayé de voir la bande-annonce du premier Harry Potter, j'ai coupé le téléphone pendant une heure.
Le temps que ça charge.
Donc, quand mes parents décrochaient, ils entendaient... Et donc, en 2005, lors de mes premières visites sur Allociné, donc Allociné, c'était un des premiers sites Internet qui diffusait des bandes-annonces. Bien avant,
on avait les ciné live. Je sais pas si
les
DVD ciné live, c'était quand même la classe.
C'était des CD et tout.
Et on est surtout en train de dire aux gens qui nous écoutent qu'on est un peu vieux.
Au cas où leur n'est pas remarqué encore.
Et donc, lors de mes premières visites sur le ciné, je suis tombée sur un extrait de film que j'ai trouvé complètement barré. Alors, dans cet extrait, on voit un homme qui a un gland. Donc, le gland.
Sur la tête ?
Oui, un gland sur la tête. Alors, quand je dis gland, c'est pas le fruit, hein, c'est l'autre gland. Hein.
Émoustillement.
Émoustillement. Et il a un tuyau en plastique de plusieurs mètres roulé autour du sexe.
De plusieurs mètres.
Et on est dans des toilettes publiques. Il commence à chanter. Une myriade de danseuses sort des toilettes. Elles sont habillées en saut. Et puis, elles ont des plots de circulation au niveau des nibards. Et puis, elles brandissent des ventouses. C'est...
Je veux voir ce film.
C'est un trip hallucinant.
Je veux voir ce film.
Je pense que Jean-Paul Gaultier aurait approuvé. J'étais émoustillée par la saveur de la pastèque.
Et t'avais quel âge ?
Moi qui n'étais qu'une jeune fille innocente. Ah. Non, ça se demande pas. Genre de question, Chris.
Je suis désolé.
À 12-13 ans.
Ah, c'est pas moi qui...
Donc je vous laisse écouter l'extrait donc que j'ai vu quand j'avais Alors pour cette chronique, j'ai donc décidé de regarder le film parce que voilà, donc c'est en 2005, j'ai été moustillée par l'extrait, mais c'est vrai que je crois que je me sentais peut-être trop jeune pour voir ce film. Et en pensant voir un film érotico, vraiment dans la comique, avec des comédies musicales, non, en fait, je suis tombée sur un plaidoyer contre la pornographie.
Waouh.
Il cache bien son jeu. Donc, je vais vous dire le synopsis. Dans un Taïwan écrasé par la chaleur, un homme et une femme tentent de se désaltérer chacun à leur façon. Alors moi, ce qui m'a frappée dans le film, c'est vraiment les plans fixes et l'absence de dialogue. Et en fait, ces plans fixes et absence de dialogue, c'est en contraste avec des passages en comédie musicale très rythmée, où il y a vraiment des plans tout le temps. Et en fait, c'est vraiment un film en symétrie. D'un côté, tu as l'homme. De l'autre côté, tu as la femme. D'un côté, tu as une sorte d'état d'humidité. Et de l'autre côté, la sécheresse. Tu as le silence. Et la musique. La blasitude et l'émoustillement. C'est vraiment un film qui en fait pose la question de comment tu passes d'un état à l'autre et comment les deux états, enfin comment l'état, enfin je sais pas, blasé et l'état d'émoustillement peuvent cohabiter. Enfin c'est pareil, ça rejoint aussi la cohabitation entre l'homme et la femme, le silence et la musique, ce que l'un doit à l'autre. Il y a une scène aussi coupée en deux, enfin qui m'a assez marquée. D'un côté, il y a la femme qui s'évertue à créer du jus de pastèque en fait, et lorsqu'elle le donne à son copain, en fait, le copain vide le jus de pastèque dehors parce qu'il en veut pas. Il y a aussi, en fait, par la pastèque, il y a aussi toute une symbolique de la communication entre les hommes et les femmes. Alors moi, à mon sens, le film se divise en trois parties. Dans la première partie, t'as vraiment, enfin, vis-à-vis de la chaleur, la solitude, l'expectation. Et ça montre très bien, enfin, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, c'est quand il fait très très chaud, quand tu te promènes la nuit, en fait, quand tu cherches de la fraîcheur, mm-hmm. et que tu vois la ville sous un autre angle, en fait. Les gens sortent dans la rue, ils cherchent de la fraîcheur, et c'est vrai que c'est souvent des moments où je me suis sentie seule, en fait, seule vis-à-vis de moi-même, et enfin, je sais pas si...
Ah, je sais pas, moi pour moi les balades d'été c'est plus en ville surtout.
Oui.
Comme il y a du monde, t'as plus cette impression de. Il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment.
Mm-hmm.
Et du coup.
Oui, c'est ça, mais l'expectation en fait.
Oui, oui. L'expectation, oui. Mais par contre, la solitude, c'est plus la solitude, non. Enfin, j'ai plus l'impression que.
Pas sûr.
Je sais pas, je l'ai inventé.
Expectative en français, non ?
C'est ça, c'est une introduction anglaise.
En fait.
Ouais,
expectation.
Oui. J'ai fait un anglicisme.
Ouais, ah.
Expectation. T'as deux formes de blasitude en fait. Enfin, j'ai inventé aussi blasitude.
Les néologismes aussi sont de rigueur, vous inquiétez pas.
Bienvenue à Catharsis, le podcast
de néologismes. T'as la. Il y a la femme qui marche, qui vole de l'eau dans les chiottes, et t'as l'homme aussi qui est blasé, qui lui, en fait, sa méthode pour se désaltérer, c'est de nager dans des réseaux, des réseaux, des réservoirs d'eau.
Ah.
Des réseaux sociaux.
Des réseaux sociaux.
J'ai nagé dans Twitter.
Non, mais j'avais l'image de Mario le plombier.
Mais un peu ça.
Et je reviens sur. Donc là, j'ai pris des scènes au hasard, et c'est vrai qu'en fait, ce film, on en retient oui, surtout la. Enfin, en fait. La scène la plus célèbre du film, on la voit dans les premières minutes. C'est le tournage d'un film porno où la pastèque remplace le sexe de la femme. Prenez vos stylos pour discuter de cette symbolique, vous avez 3 heures.
Ça va faire des sacrés bruits, non ? Enfin, parce que...
On est toujours sur les bruits de bouche et...
La SMR, là.
Quand tu bouffes une pastèque, ça fait quand même du bruit, puis c'est un peu crade et tout, non ?
Ouais, bah tu vois bien le mec mettre ses doigts dans la pastèque, les lécher...
Des sacrés bruits,
ouais. Ah ouais.
Nous sommes donc dans la suggestion et l'allégorie.
Petite parenthèse, j'écoute un podcast en ce moment qui s'appelle « Écouter le cinéma ». Et c'est des sound designers qui témoignent et qui expliquent leur métier, c'est vachement intéressant. Et il disait que pour faire justement, alors c'est pas le côté sensuel, hein, désolé, ça va être un peu crade, mais c'est le côté briser des os, ouais. Décortiquer des entrailles, machin.
Qui est le poulet et tout là.
En fait, ouais, ou même des asperges. Genre
ah
asperges,
oui,
c'est
pour les os, ouais.
Et pour une artère qui se vide, ils enfoncent leur pouce dans un pamplemousse. Et ça fait squinch, squinch, squinch. C'est assez dégueulasse. Et le podcast est très très sonore et c'est horrible. Les os brisés, tu les entends vachement bien. T'es dans le métro et t'es là genre, stop.
Donc, et maintenant que tu sais ce que c'est, est-ce que ça va te faire moins d'effet ?
Eh ben je pense pas, parce que les mecs témoignaient aussi en disant quand je tourne des scènes ultra gore où des gens se font torturer ou je rajoute les bruits par-dessus, en général ils travaillent 10 minutes puis après ils s'arrêtent parce que c'est horrible.
D'accord.
Pour eux en fait, c'est trop réaliste. Mmh. Donc voilà, petite parenthèse. Donc la pastèque ça doit être assez.
C'était un aparté.
Ça doit être assez squitcho si je puis me permettre d'inventer ce mot.
Ouais, et en fait, du coup, ce film en fait il parle de. Enfin voilà, du monde un peu du porno, et c'est vraiment à l'inverse de Boogie Night, où en fait ces scènes de tournage sont vides de tout. C'est vraiment là où dans Boogie Night t'avais vraiment une sorte de famille du porno, etc. Là t'as des gens, comme si c'était une somme d'individus qui essaient de tourner un film, et. Enfin non, c'est. Puis quand tu vois, quand ils tournent le film, tu trouves ça vachement ennuyeux, quoi. Il y a rien de clinquant, t'es pas du tout émoustillé, alors que normalement, voilà, le porno, apparemment, C'est censé donner de l'excitation.
J'en ai jamais vu, mais apparemment...
Ah, j'ai ouï dire que le porno, ça pouvait exciter un petit peu les gens. Bon, rumeur asite, hein, je ne sais pas.
Je ne sais pas pourquoi.
Alors, la crépitude et le mensonge.
Et c'est vrai, du coup, ça rejoint ce que tu disais, Emma, je suis beaucoup plus émoustillée quand ils font la cuisine tous les deux, le couple, que lorsque je vois ces scènes de tournage de porno. Et c'est vrai que ouais, ça parle... La difficulté aussi pour un cinéaste de entre un érotisme, on va dire, décalé et une pornographie sombre, en fait. Donc, dans la deuxième partie, ça montre vraiment la difficulté entre l'homme et la femme, entre les deux héros, à se parler. Il y a des scènes sensuelles, par exemple, quand le mec fume avec les pieds de sa partenaire. C'est la scène qui m'a beaucoup plus émoustillée. Enfin, je veux dire,
fétichisme des pieds.
Ouais, il y a un fétichisme des pieds. Pareil, la cuisine à deux, où vraiment le cinéaste réussit à rendre excitant le fait de verser de la sauce sur des nouilles, quoi. C'est fou. Et la troisième partie, elle est beaucoup, beaucoup plus sombre.
Et on voit... Il y a une vraie rupture de ton dans le film.
Ouais,
il y a une vraie. Dernier quart d'heure.
Oui.
Quart d'heure, c'est ça ?
Oui, mais tu l'as vu, je pensais pas.
Je sais tout.
Et je m'y attendais vraiment pas, quoi. C'est vraiment une fin qui te laisse sur une vision désespérée de l'amour et du sexe, quoi.
Alors, la question, on divulgâche comme des sagouins ou pas ?
Moi, je suis d'accord, hein, je l'ai pas vu et je suis hyper intriguée.
Non, je dis juste que c'est à la fin, c'est quelque chose de c'est une rupture de ton et tu attends pas vraiment ça.
Est-ce qu'on divulgâche la rupture de ton ou pas ?
Non, j'ai pas envie de la gâcher, mais on voit plus de pastèque en tout cas. En fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, non, mais c'est fou en fait. C'est en fait, tu te rends compte à la fin du film que la pastèque finalement elle s'en va en fait. Tu la vois de moins en moins en fait.
Une transition qui a été faite.
Et peut-être que la pastèque, tu vois, ça représente l'émoustillement et qu'à la fin on n'est plus
dans.
Il y a plus besoin ou.
Je sais pas, j'ai pas encore vu le film, mais j'imagine qu'en fait la transition a été faite pour qu'on ait plus besoin de cette représentation pastèque pour. Figurer quoi que ce
ouais,
soit.
Ouais, mais
de...
justement, après, vu que la pastèque n'est pas là,
en fait.
Oui, voilà, ça s'assombrit.
Le film, il s'assombrit.
Ah, c'est une vraie, d'accord. Donc, on fait vraiment une rupture de temps et on n'est plus du tout dans le même sujet, d'accord.
Et du coup, ouais, la question, enfin, le message, enfin, les questions que pose le film, c'est est-ce que le porno nous excite ou est-ce qu'il nous éloigne les uns des autres ? Et nous qui croyons créer des moustillements, est-ce que le porno ne le tue finalement pas ?
Excellente question.
Voilà. Excellente question. Donc voilà, c'est vraiment les questions que pose le film. Et donc, tout ça, ça part d'une... J'étais émoustillée par une bande-annonce et finalement, voilà, je me suis pris...
Ça
a
retombé, quoi.
Ouais, à la fin du film, ouais, effectivement, c'est retombé.
Le questionnement existentiel.
Cela dit, c'est une vraie question. Enfin, on discutait de l'autre fois du documentaire sur la pornographie, Hot Girls Wanted.
Exactement.
Et c'est vrai que tu les vois quand elles rentrent dans le porno, c'est dans l'idée de devenir des stars, c'est dans l'idée de... Voilà, de elles viennent avec des limites en fait en se disant ah non ça moi jamais et au fur et à mesure tu vas dans des trucs de plus en plus hardcore en fait et je pense que c'est ça aussi quand tu regardes du porno ou quand tu vas en faire c'est tu te dis bon bah il y a pas de limite en fait il y a pas de limite et au bout d'un moment ça te casse en tout cas les filles qui sortent de là
C'est... bah déjà quand elles prennent leur courage à deux mains et qu'elles arrivent vraiment à partir elles se traîneront toute cette étiquette plus long pour toujours mais il y en a aussi plein qui partent pas et qui en gros la durée de vie d'une actrice porno c'est 3 semaines
voilà donc
ah oui d'accord
oui sauf celles qui arrivent à percer qui
voilà mais elles sont 1% quoi.
Voilà il n'y en a pas beaucoup donc ça peut être une réponse oui c'est une industrie qui peut casser des choses le lien social la façon dont tu t'es excité en fait la façon dont tu t'émoussies parce que finalement tu vois des choses. Tu te dis, c'est pas. Il y a plein d'articles de Mademoiselle là-dessus qui te disent le porno, c'est pas la vraie vie. Si t'essaies de faire ça chez toi, t'es foutu. Tu vas avoir un gros torticolis de merde. Et c'est drôle parce qu'il y a un article où il dénigre la position, le 69, parce qu'il y a un dessin qui est assez illustratif. Ils disent donc voilà, bon, pour la femme, donc angle impossible, ça fait mal. Et de l'autre côté, le mec arrive pas à se concentrer, donc de toute façon, personne n'arrive à rien faire. Et c'est trop nul. Et du coup, et tout ça, est-ce que c'est pas des images justement véhiculées par une industrie qui peut tout casser, ouais.
On pose des questions
loin.
De ouf là.
Je suis allée trop loin, c'est ça.
Non, je suis en train. Bon, là, je vais pas. Enfin, j'ai fait genre que j'ai pas vu de porno. Mais du coup, dans le peu de porno que j'ai vu, j'ai vu aucun 69.
Ah bah écoute, j'en ai vu plus que toi.
Oui, donc ok, donc d'accord.
Mais après, il y a aussi tout le, toute la... Parce que le film a été censuré à Taïwan, alors qu'il a eu un, une renommée assez importante en festival. Il était au festival de Berlin. Et
Ah oui, en fait, c'est le film qui a lancé le réalisateur taïwanais, ouais.
Bah ouais, et du coup... Enfin, en gros, il y a eu beaucoup de débats autour du film, et les grosses questions, c'était... est-ce que ce film, c'est du porno de l'art pour le cinéma taïwanais? Et surtout, est-ce que le fait qu'il ait une renommée à l'international fait qu'on est obligé de le diffuser? Et ce qui est rigolo, c'est que bon, c'est la première fois que ces débats avaient vraiment lieu sur le territoire. Et il y a eu pas mal de couvertures de journaux qui insultaient limite le réalisateur pour avoir fait le film. Mais le film, c'est l'un des premiers en... qui a eu un succès aussi international. Le film taïwanais.
Le film taïwanais. C'est... Donc, oui, c'est hyper embêtant, en fait.
Voilà.
Oui, parce qu'en fait, c'est un film qui jette un miroir à leur société, de... d'un peu d'hypocrisie, quoi. De... Bah si, en fait, vous faites du porno, vous regardez du porno, mais vous voulez pas le voir, en fait, c'est ça.
Okay. Bah, c'est ça, en Asie, filmer les corps, en tout cas, à cette époque-là, c'était un peu compliqué. C'est pas...
Mais dans le film, du coup, je l'ai pas vu, dans le film, tabou, on voit des gens nus faire des choses,
oui.
D'accord, ok.
Oui.
Mais sans les pastèques, du coup.
Oui.
Sorry, okay,
en fait, c'est la première scène, une des premières scènes du film où la pastèque remplace le sexe de la femme.
Ouais, mais après. C'est...
Mais après, justement, c'est à la fin, je le dis, j'ai déjà dit, c'est bah il y a plus de pastèque.
Ouais.
C'était quoi le film qu'on avait vu, la L'Empire des Sens, ou je sais pas quoi.
C'est autre chose. Ça. oui, je l'ai vu avec toi, je me rappelle.
Ouais, mais c'était carrément du porno, ça, en fait.
C'était des scènes de sexe en simulé, ouais.
Ouais, c'était étrange. Est-ce que c'était de l'art aussi? Est-ce que c'était...
Bah, pour moi, c'est de l'art, oui.
En tout cas, c'est très gênant de regarder ça dans une salle de cinéma.
Avec des gens à côté.
Avec
des gens que tu connais.
Bon, y a pas tes parents, ça passe.
Y a pas les parents, donc c'est...
Y avait ma sœur.
Ouais, c'est assez...
Par contre, je dirais qu'à partir du moment où... Ok, il y a une scène qui fait à peu près pornographique dans un film, mais si c'est juste une scène dans le film et qu'il y a tout un propos qui l'entoure, je pense pas, faut pas classer ça dans le porno. C'est censé être, j'espère dans ce film que c'était une scène qui était censée mettre en exergue des relations, une relation qui arrivait à un aboutissement, un truc comme ça.
L'Empire des Sens, c'est assez spécial, c'est pendant tout le film comme ça, parce qu'en fait c'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui s'aiment de manière presque destructrice, et ils passent leur temps à
copuler.
Ah, ils passent leur temps à niquer, ouais.
Ils s'enferment dans les chambres d'hôtel et puis...
Voilà. Ils se lavent plus, hein, c'est genre...
Dans ce cas-là, c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, t'as cette relation, mais si c'est que...
Après, c'est un parti pris du réalisateur, ouais, tu vois, c'est des scènes de sexe non simulées, enfin c'est...
Ouais,
hyper chaud,
plaisir.
Et pour les acteurs ça devait être hyper chaud aussi, et oui, je pense que tu peux le passer dans l'art, et peut-être que c'est ça qu'il a voulu montrer réellement, tu vois. Donc c'est assez tabou,
parce que là pour le coup on n'est pas dans le même on n'est pas dans la même problématique, et on est, enfin, et c'est pas du tout le cas pour le
message est pas le même, ouais.
Parce que en plus le réalisateur il dit bien
le taïwanais
oui du je vais pas essayer
de... Agathe, aujourd'hui, elle nous reprend, c'est genre. Attends, de quoi tu parles? Tu parles bien de Jacques Demy. Oui, pardon.
Non, je vais pas essayer son nom. Non. Je l'ai trop massacré.
Le réalisateur taïwanais.
Donc, le réalisateur de la Sèvres de la Pastèque.
Oui.
En gros, il explique qu'il a toujours un sentiment de culpabilité à regarder les corps. Enfin, ses corps nus, ses corps d'acteurs porno, etc. Et il dit que... Il a toujours l'impression que c'est des hommes et des femmes exploités et qui sont interchangeables comme des objets de consommation. Et je pense que c'est aussi ça qu'il essaye de montrer dans son film, en fait.
Oui, oui, absolument.
Et alors que tu vois, du coup, je pense que les scènes, enfin, c'est même sûr, les scènes sont pas les scènes sont simulées.
Oui, je pense que les scènes sont simulées, mais bon, c'est cru. Hein,
et
c'est...
on est donc vraiment dans la dénonciation et pas dans une exposition gratuite.
Oui, oui, non, c'est vraiment dans la démonstration. Ouais. Puis en fait, c'est une dénonciation. Enfin, même parfois, les acteurs te disent, mais tu trouves ça vraiment excitant, ces trucs-là. Tu vois, c'est un peu comme ça, quoi. Et lui, il essaie par des choses du quotidien de nous montrer une autre sensualité, quoi. Par exemple, quand je parlais, quand ils font la cuisine, quand
ils trempent la sauce sur les nouilles, donc.
Mais ouais, non, mais cette scène. Pareil, enfin, à un moment, il y a une scène où ils refont du goudron, et quand tu vois l'eau sur le goudron, enfin, non, mais c'est
la vapeur.
Non, mais oui, c'est
amené de façon à ce que ça soit assez, ça apporte une certaine sensualité, en fait.
C'est des bruits, c'est des...
Et la question que je me pose encore, c'est pourquoi ces scènes musicales, en fait, il y a vraiment des moments très musicaux, enfin très très colorés, très...
Pour pour lâcher la tension.
Ouais, sûrement, peut-être pour lâcher la tension, où on parle d'amour, on parle de...
Créer une certaine légèreté.
Oui, c'est ça.
Tu alternes du Jacques Demy avec du porno hardcore. C'est...
Ouais, non, mais
c'est... Ah, c'est la rupture de ton direct.
Non, mais c'est vraiment un film qui m'a... Je regrette pas du tout de l'avoir vu, en fait. Même si la bande-annonce était assez trompeuse.
Je pense que pour les moments musicaux, le réalisateur, il dit que c'est un travail de fiction qui est basé sur des sentiments plutôt que des idées. Donc je pense que c'est plus pour illustrer...
Un sentiment,
un sentiment, en fait, les moments musicaux...
Un contre-pied du porno qui n'exprime rien. Un peu comme ça, ouais.
Bravo!
Dénonciation!
Bon, allez, ouais,
nous, chez Catharsis, on a des opinions. Attention!
On va pas se lancer dans un gros bordel comme ça. J'avais essayé une fois, je m'en souviens.
On avait coupé au montage. C'est pour dire à quel point nous avons honte de nos opinions.
Eh bien, nous allons poursuivre avec Chris qui nous... On reste en Asie. Mais cette fois-ci, on part en Corée-Japon avec le film Mademoiselle de Park Chan-wook avec Min-hee Kim. Avec Min-hee Kim et Kim Tae-hee.
Tamako desu. Yoroshiku onegai itashimasu, ojo-sama.
Je ne me serais pas risqué à dire le nom des actrices principales, mais effectivement Park Chan-wook, que vous connaissez sûrement pour avoir fait All Boy par exemple.
Exactement, et c'est un film qui est assez délicat et séduisant et qui a une très belle
photographie,
très belle image.
Ce film est beau, je vous conseille
et
déjà.
Voilà, Chris, parle-nous-en.
Donc
plus.
Voilà, Mademoiselle.
Et on est un peu plus tôt aussi, enfin on est plus près de notre époque.
Oui.
Le film est plus vu, est plus récent.
Oui, date de 2016, d'après ce que j'ai cru voir.
Donc,
de par Wikipédia en fait.
Ou alors, ciné,
n'importe quelle source que vous voudrez regarder.
Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est une bonne source.
Moi,
c'est pas mal, oui.
Je l'ai vu au cinéma il n'y a pas longtemps.
Moi, je l'ai vu au cinéma.
Mais je l'ai vu en Blu-ray après, chez mes parents, c'était.
Je ne l'ai pas vu.
Je peux te prêter le Blu-ray.
Est-ce que les auditeurs ne s'entament pas?
Non, mais à chaque fois que. Du coup, je l'ai regardé chez mes parents dans le salon. Et et ma mère était dans le coin.
Ah oui, je...
Et du coup, j'ai dit à ma mère, maman, est-ce que tu pourrais ne pas rentrer dans le salon pendant les 2 heures qui arrivent? Mais t'inquiète pas, je regarde pas. Et du coup, elle s'est installée dans le salon avec moi. Et elle a commencé à... Je sais pas ce qu'elle était en train de faire sur son téléphone. Elle était sur son téléphone. Et à chaque fois qu'il y avait une scène, j'étais là. Ok, bon, bah, je vais mettre pause et puis je vais attendre qu'elle s'en aille.
Énorme.
Puis finalement, j'ai abandonné. Je me suis dit, je vais le regarder plus tard parce que je n'y arriverai jamais. Voilà,
Désolée, j'ai une anecdote du coup sur le sujet. C'est quand je regarde un film justement avec mes parents, c'était quand j'étais un peu plus jeune. Dès qu'il y avait une scène un petit peu alors érotique, slash, un peu sensuelle, machin, mon père faisait systématiquement un commentaire. Tu sais, c'était lui le plus gêné en fait. C'était trop drôle. Tu sais, à chaque fois, il fait un commentaire genre, oh, on mange quoi ce soir? Tu sais, un truc complètement en dehors du film. Ça sort tout le monde. Mais il est tellement gêné qu'il peut pas s'en empêcher. C'est tellement drôle.
Moi, ma mère, elle regardait ma soeur ou moi avec un regard genre noir en mode, avance rapide.
Énorme. Et donc, effectivement, vous en doutez, il y a une scène sympa dans le film, mais Christopher va nous dire mieux.
Eh ben moi j'ai eu la bonne idée de le regarder tout seul, donc pas de problème.
Il y a des gens malins autour de cette table quand même.
Oui, j'ai attendu que tout le monde soit couché.
Parce que cinéma on n'était pas bien non plus.
Hein. J'ai pas eu l'occasion de le voir ciné, je l'ai vu donc chez moi tranquillement. Seul.
Seul.
Pour ne pas avoir de gêne.
Alone in the dark.
Ouais. Avec une botte de mouchoir. Il fallait que je fasse la blague.
Non.
Oh.
Non.
Est-ce qu'il est triste?
Merci pour ce sauvetage, merci pour ce sauvetage. Et oui. Merci Agathe. Je vais peut-être commencer.
Vas-y, on t'attend.
Désolé, cher auditeur. Donc, Mademoiselle, l'histoire de cette jeune coréenne d'un milieu pauvre engagée pour servir comme servante à une autre japonaise. Dans un milieu aisé, je dois le préciser. Cette dernière, elle est sous la coupelle et la tutelle d'un oncle lubrique qui projette de l'épouser pour accéder à sa fortune. Mm-hmm. Donc ça, comme bref résumé, effectivement, ça pose l'action comme ça. Donc tout se passe dans les années 30 pendant l'occupation japonaise en Corée et tout commence par le départ de Suki, donc notre mermaid, notre handmaid, excusez-moi, en devenir.
Une sirène.
Ouais, 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 ouais. Handmaid, mermaid. Choisissez ce que vous voulez, vos fantasmes, on est dans les moustillements, faites-vous plaisir. Suki va se rendre dans un domaine où elle servira Hideko, qui est donc la mademoiselle, la jeune japonaise dont je parlais précédemment.
Et donc la mademoiselle du titre, c'est la japonaise.
C'est la japonaise, d'accord. Effectivement. Puisqu'effectivement, c'est la japonaise, c'est la fille riche, et donc, elle qui a le titre de mademoiselle. Nous avons donc une introduction qui est plutôt simple et formelle, nous présentant non pas l'une des personnages principales, mais le contexte dans lequel on va les voir évoluer. Ce qui est plutôt intéressant, parce que d'habitude, on a toujours une certaine phase d'exposition. La jeune va faire tel le truc, elle vient de tel endroit. On l'a, mais pas forcément avec le texte habituel, mais simplement par la présentation visuelle. Donc, on a les décors, on a les personnages qui parlent entre eux. On n'a pas quelque chose d'explicatif quant à leur passé. On nous indique juste le milieu, et ce qu'ils vont faire. Donc voilà, présentation du contexte dans lequel ils vont évoluer, présentation du domaine aussi, présentation des tâches à accomplir auprès de la demoiselle et ses habitudes. Tout est solennel, maîtrisé, et tout d'un coup, après 7 minutes de film, il y a un micro-événement qui vient prendre le spectateur à contre-pied pour apporter une certaine légèreté de ton, qui va poindre le bout de son nez en fait, de temps en temps pendant le film, et qui est une sorte de marque de fabrique du film, en fait. Pas forcément de l'auteur, mais dans ce film-là, c'est comme c'est quelque chose qui est redondant, en fait, mais léger et subtil. C'est aussi un trait qui va étoffer un peu les personnages. Vous verrez si vous le regardez. Si je vous donne envie de le voir, surtout.
C'est l'apparition du jeune homme ou c'est autre chose?
Ah non, pas encore. Pour l'instant, c'est vraiment la présentation. C'est vraiment les 7 premières minutes qui sont une présentation du milieu dans lequel vont évoluer les personnages, la classe dont font partie les personnages et qui va accomplir quoi.
Ok.
C'est vraiment très sommaire, mais...
C'est le début d'un jeu vidéo, quoi. C'est ta classe, ta quête et...
Ouais, limite, mais pas aussi explicite que ça, parce qu'au fur et à mesure, les choses se développent. Mm-hmm. Bon. Donc après quelques événements où la servante sera présentée, on apprend que c'est une voleuse faisant partie d'une famille d'escrocs qui a été choisie par le comte. C'était un escroc issu de la populace, en fait, mais il se fait appeler le comte. Et cela pour mener une anarque de grande ampleur aux dépens de la mademoiselle. La servante devra encenser le comte auprès de la mademoiselle autant et à chaque fois qu'elle le pourra, jusqu'à ce qu'elle cède à ses charmes. Donc là, on parle encore une fois
de répétition,
de oui, je veux sortir avec toi, non, ah, non, peut-être, oui, oui, non, peut-être, non, non, oui, oui, peut-être, oui.
Donc en fait, la mademoiselle japonaise, bah, elle est à la fois sollicitée par l'oncle Lubric et par l'escroc, c'est ça?
Ouais. Elle va être sollicitée par le comte.
Mais elle est belle.
Elle va être sollicitée par le comte. Au premier abord, et la servante va devoir lui vendre le compte, en gros, quoi.
Oui, mais c'est bien ça, c'est sollicité par des deux côtés, en fait.
Il y a l'oncle.
De la façon dont je l'ai compris, excuse-moi pour le solliciter, c'est que, en fait, les deux veulent séduire la mademoiselle.
Oui, c'est ça.
Et là, je voulais revenir, en fait, c'est ce qui va se passer, mais c'est pas comme ça que je voulais l'introduire.
Pardon.
Mais oui, on peut dire ça directement. Et ouais, j'en suis là. Les prémices des moustillements.
Enfin,
donc ça survient de façon assez, pas discrète, mais presque anecdotique en fait. C'est juste une scène comme ça qui se déroule et on découvre un peu. Donc c'est au moment où la servante fouille dans les affaires de la mademoiselle, et ils trouvent des boules de geisha.
Oh.
Moi, quand je les ai vues, je pensais que c'était des boules qui étaient censées servir...
Une naphtaline.
Non.
Des trucs de relaxation, là.
Non, parce qu'en fait, au Japon, ils ont des sortes de petites barres de fer qui permettent de lester les vêtements traditionnels.
Ah.
Et je connaissais pas cette forme, je me dis bon, c'est des boules, ça sert à ça. Et il a fallu un certain temps pour me rendre compte que j'étais complètement stupide. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que j'étais stupide, que c'était vraiment des boules de geisha. En fait. Et voilà, donc c'est une scène comme ça qui passe très rapidement, mais qui pose déjà une sorte de prémisse à ce qui peut se passer, à ce qui se passe dans cette maison. Donc c'était bien des boules de geisha.
Au ciné, tout le monde était émotionné.
Non, c'est pour laisser les vêtements, voyons, c'est pour laisser les vêtements. Hein.
Il a vu un autre film par rapport aux autres.
Ouais, désolé, je peux être un peu candide. Mais ça a pas mis longtemps que je me rende compte de mon erreur quand même.
C'est de la naïveté, ça, pareil.
Ouais. Donc, pour continuer, dans cette continuité, les deux femmes se lient d'affection au fur et à mesure qu'elles apprennent à se connaître, partagent des moments qui sont Bechdel-proof, si je peux me permettre. Puisqu'elles passent, puisque ce film... Oui, Bechdel.
Ouais,
j'ai peut-être mal proposé, désolé.
Ah,
parce que ce film passe le test haut la main, en fait. Donc, il y a au moment où les deux femmes dans l'œuvre, il y a au moins deux femmes dans l'œuvre, check. Elles parlent ensemble, double check. Elles parlent d'autre chose que d'un homme, triple check. Et ça, c'est presque un spoil, parce qu'effectivement, normalement, la handmaid, donc la servante, est censée encenser le comte auprès de la mademoiselle. Donc, elle est censée parler du type. Et là, pour le coup, normalement, c'est pas censé fonctionner pour le Bechdel. Mais il se trouve que dans le développement, elle ne parle pas que de lui.
Ouais.
Et là, ça devient intéressant. Et là, c'est Bechdel-proof. Et ouais. Là,
ça marche.
C'est presque un film, pas forcément pas féministe, mais qui donne sa part belle aux femmes, à ses personnages. Et pour le coup, les personnages masculins, ben, on s'en fout complètement, quoi.
Ouais, puis au final, c'est un film qui montre vraiment des scènes de sexe lesbien.
Ah, d'accord.
Oui.
Ah,
bah, trop tard. Mais c'est pas grave. Allez voir le film quand même.
Allez le voir, c'est bon.
Oh, je suis désolée.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Oui.
Oui, parce que c'est pas.
Ah, donc c'est la scène dont vous parliez, c'est ça.
Oui, ce qui est bien dans ce film-là, c'est que rien n'est. C'est pas cru, en fait. C'est vraiment la sensualité même. Le film est et tu pourrais figurer à la définition de sensualité. Ah oui, sensualité, allez voir Mademoiselle.
Ouais, je suis d'accord.
Donc voilà.
C'est une très très belle scène. C'est très bien filmé. Mmh.
En fait, la raison pour laquelle on a cet effet un peu. Cette élégance de l'image, c'est parce que ils ont utilisé une optique anamorphique. En gros, ça change les profondeurs et ça lisse l'image. Et du coup, sur les visages, ça les magnifie. Et c'est pour ça que t'as cette. Enfin, il y a plein d'autres choses, hein, etc. Mais cette optique-là fait que ça rajoute vraiment de l'élégance tout le long du film.
Il y a une composition, une image, une lumière.
Ouais.
Vous verrez des couleurs. Enfin, c'est vraiment très beau, c'est très maîtrisé. Un très beau film.
Et puis au-delà de ça, oui, t'as les décors. En fait, c'est très, très japonisant, très. Voilà, donc t'as des très beaux tissus, t'as des très beaux lieux.
Fait intéressant, c'est que le manoir où les personnages évoluent a plusieurs styles. Un style colonial anglais mélangé avec un
exotisme.
Bah non, avec une partie, enfin, excuse-moi, un exotisme, mais c'est une partie japonaise. Ouais. Gros. Le lieu est un mélange des deux et ça rend vraiment super bien. Cool.
Et est-ce que le fait que t'as une servante coréenne et puis je sais pas une femme japonaise, ça se passe pendant l'occupation, est-ce qu'il y a une petite lecture un peu politique, non ?
Très peu.
Très peu.
Très peu. Ce qui est d'ailleurs très très surprenant parce que on pourrait s'attendre à ce que ça fasse partie des éléments perturbateurs, mais pas du tout. C'est vrai qu'il y a l'occupation japonaise qui a été très sévère en Corée. Bon, je vais pas avancer là-dessus parce que je connais pas tous les allants et aboutissants. Mais le sujet n'est pas vraiment abordé. Il est là, en toile de fond, mais
il ne fait pas partie du tout de l'intrigue. Oui, parce que c'est dans les années 30 et on est quand même dans une période d'occupation japonaise.
Oui,
où les Japonais, on disait clairement que les Coréens, c'était des sous-hommes, quoi. C'était...
C'est, ouais, ouais.
Là, t'es plus dans un huis clos, en fait. Ça se passe beaucoup dans la maison. T'as les mêmes personnages qui reviennent. Enfin, c'est un huis clos. J'exagère, mais c'est un peu ça. On est centré sur...
On est vraiment centré sur les personnages principaux que l'on voit. On n'est pas du tout sur le contexte historique.
Ça me fait penser au film de Sofia Coppola, qui est aussi un remake. Les Proies, pareil, ça se passe lors de la guerre de sécession. Et finalement, c'est aussi un huis clos dans un manoir où il y a une sorte de déchaînement un peu des passions.
Oui, et la guerre est une toile de fond.
C'est ça, c'est juste un prétexte.
Mais d'accord. Pour le coup, ils n'abordent pas plus la guerre dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment, c'est dans le fond, on sait que c'est là, c'est mais ça.
Non, mais c'est comme dans Les Proies.
Okay. Après, l'un des trucs qui est bien avec Mademoiselle, c'est quand même un film à tiroir.
Oui.
Et
tu vas pas plus loin ?
Non. J'ai déjà spoilé un truc.
Non, parce que effectivement, je veux pas spoiler en fait le film.
Si on trouve des boules de guéchard dans les tiroirs, oui.
Non, mais je veux dire, c'est que. C'est trop bien.
Oui. Merci de t'être calmé.
Je comprends que tu veuilles pas le spoiler.
Non, mais je voulais pas spoiler, mais je veux juste dire qu'il y a beaucoup de sensualité dans le film, c'est génial. Mais aussi, c'est un film qui te tient en haleine. Et il y a des fois, t'es comme non.
Et ça, j'ai plus l'impression que c'est vraiment
un truc du réalisateur. Donc en fait, on mélange l'émoustillement, sensualité avec l'émoustillement, genre le suspense, le... C'est ça ?
Oui, oui. D'accord. Oui. Pas que l'émoustillement sensuel, il y a aussi toutes ces surprises que l'on découvre. Le plaisir de la découverte, en fait, tout simplement, comme tu as dit.
Ça fait ressentir beaucoup de choses.
Ouais. C'est bien de le voir seul pour pas être bizarre. Sans boîte de mouchoirs, bande de pervers. Bon, je reprends le fil de mon... Bon, toujours est-il qu'après quelques scènes de copinage entre la handmaid et la mademoiselle, il arrive une scène qui introduit l'émoustillement pour moi, en fait. C'est la scène qui plonge vraiment le spectateur dans pas en suspense, mais il est en suspens quant aux actions qui se déroulent. Il n'y a pas de gêne, par contre. C'est un truc que je remarque, c'est que tout se passe de façon plutôt naturelle. C'est une découverte, ça va à tâtons, mais c'est pas une gêne, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de mauvaise idée de regarder ce film.
Ouais, je sais pas ce que je dis.
Je sais pas si je me fais comprendre, mais...
Y a une logique, en fait. Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. C'est pas bizarre.
Voilà.
Les personnages sont très, très, très attachants aussi, malgré tout. Et du coup, t'es plutôt heureux dans ces moments-là. Et voilà. Le film te guide tellement que... Il n'y a pas de gêne,
effectivement. En fait, c'est Emma qui aurait dû faire cette chronique.
Mais non. J'aime bien.
Non, mais même dans la construction des personnages, certains personnages réagissent de telle manière parce qu'on les a vus faire d'autres trucs au début. Mm-hmm.
Oui, oui, oui.
Et c'est après 30 minutes de film, on est déjà...
Si tu l'as pas vu, c'est là.
Ouais.
Ça n'a aucun
sens. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi.
Mais juste après 30 minutes de film, on est déjà en sympathie envers ces deux femmes-là parce que... Elles ont toutes les deux leur background, on s'en fout, mais elles agissent de façon spontanée. la elle-même d'ajouter de façon spontanée, alors que forcément la japonaise, elle est dans la retenue japonaise, enfin, un peu stéréotypée, mais au fur et à mesure, les gens se délient, commencent à se confier, et on est content de les voir évoluer ensemble, de copiner, en fait, de vraiment se lier d'amitié minimum, au départ, et comme je vais vous l'expliquer, bah, y a pas que ça. Donc la scène dont je voulais vous parler, c'est que Suki fait prendre un bain à Hideko, qui pense avoir une dent qui bouge. Au départ, très innocent, cette scène devient très rapidement connotée. Suki a un doigt dans la bouche de la demoiselle et y imprime des va-et-vient pour vérifier la mobilité de la dent. Donc là, tout de suite, j'étais innocent pour les bouts de geisha, mais là, quand même, faut pas être con, quoi. Oh
bah, la
pièce fait
mal aux dents,
hein,
faut l'aider. Hein.
Donc à ce moment-là, les regards se croisent, une demi-caresse est faite, un regard sur des boobs apparents a été montré, une bouche non soumise à inspection est entrouverte. De la salive et de la condensation à perler au bout des lèvres. Donc, la scène est sulfureuse, mais pas vulgaire pour en sourd, en fait. Mm-hmm. Elle nous confirme l'attirance éprouvée par Suki envers Hideko et celle naissante envers sa servante. Et c'est pour le coup le moment que je voulais donc expliquer, mais qui a été un peu abordé en amont de, de cette chronique, enfin de ma partie en tout cas, c'est que au départ, la servante devait encenser le comte auprès de la mademoiselle et que finalement, ben, il se trouve que la servante tombe amoureuse de la mademoiselle et on a presque un trio amoureux, presque. Je peux pas vous en dire plus. Et c'est cet élément qui va perturber le plan initial car la servante doit tout de même pousser Hideko à se marier avec le comte. Oui. Et c'est là où je m'arrêterai en ce qui concerne
le divulgachage.
Le film, parce que tout le reste, bon, on va être surprise en surprise. En gros, je peux vraiment rien dire de plus.
Plein de tiroirs.
Ouais, plein de tiroirs.
Un très très beau film. Et très, les personnages sont très bien écrits, donc t'as ce côté réel, t'as ce côté logique, tu te dis jamais c'est forcé en fait, c'est pas une Valérian quoi,
c'est un très très beau film. Ah bah oui, non, Valérian c'est voilà. Mais pourquoi on parle de ça?
C'est parce que je l'ai abordé deux
à l'heure. Non, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire il y a des mauvais films, il y a des bons films, et de les comparer en fait, et de comprendre pourquoi un film ne marche pas,
ce qui marche,
ce qui marche et ce qui marche pas. Et sur Valérian, ça marche pas sans doute parce que le personnage est désagréable, parce qu'il est mal écrit, parce que la femme, elle a aucun intérêt et qu'elle est mal écrite aussi. Et on le sait dans les films de Luc Besson que les femmes sont mal écrites.
Ce qui est plus étonnant parce qu'il me semble que dans la BD, c'est plutôt bien fait en fait.
Bah, j'ai BD, pas lu la BD, mais il me semble.
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est même juste le titre du film. Hein. Parce que les BD,
ouais,
c'est
voilà. Valérian.
C'est Valérian et Lauraline.
Lauraline, elle s'appelle, ouais.
Et là, c'est juste Valérian et ce qu'ils vont faire, la cité des mille...
La cité des mille mondes, je sais pas quoi.
Trucs, ouais.
Voilà.
Et c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est que voilà, t'as un personnage qui est mis en avant, il est pas sympathique, il est désagréable, il est sexiste, enfin, c'est tout ça qui fait que t'as pas envie de croire au personnage, t'as pas envie de le suivre.
T'as pas envie de t'attacher.
T'as pas envie de t'attacher, ça marche pas. Mm. Ça marche pas. Et c'est un peu... C'est drôle aussi, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les nanars. Les nanars, c'est sympathique pour le coup, donc c'est un petit peu différent. Mais ça marche pas non plus parce que la réalité a pas été bien retranscrite. Tout est faux. Les personnages jouent faux. C'est comme quand t'es petit et que tu fais une pièce de théâtre, tu joues faux parce que tu t'as pas encore l'expérience. Tu sais pas comment faire retranscrire cette émotion. Et du coup, ça marche pas. Et c'est intéressant de voir ça.
Si vous voulez une bonne adaptation de BD de Luc Besson, regardez Adèle Blanc-Sec, s'il vous plaît.
Et t'es bien. Moi, j'ai bien aimé.
Bah oui. Et là, il y a vraiment un personnage de femme et qui a pas de parasite amoureux ou tu vois, c'est vraiment une femme qui.
C'est la femme forte dans le milieu.
Ouais, non, moi, le film s'appelle Adèle Blanc-Sec.
Oui.
Voilà.
On est sûr
que voilà. Et c'est con parce que voilà.
Les gens n'ont pas beaucoup aimé le film, oui.
Oui.
Les gens n'ont pas beaucoup aimé le film, je trouve ça.
Il n'a pas eu beaucoup de succès. Bah, Valérian non plus, heureusement.
Adèle Blanc-Sec, il est vraiment.
Valérian, ça a tué Europacorp, donc il y a un moment.
Mais Adèle Blanc-Sec, vous avez déjà lu les BD ou pas? Parce que c'est très spécial.
Oui, oui, c'est très.
J'avais vu que le film.
Voilà, donc de fait, regarder le film, c'est très très bizarre. C'est très fantastique, c'est tardi, c'est.
Oui, la BD, c'est très bizarre, mais je trouve qu'il a bien. Enfin, Luc Besson l'a bien retranscrit pour un public, beaucoup plus, un plus grand public en fait. C'était ma. J'étais avocate de la défense de Besson.
Il en a un. Tu en fais partie. Et bien, pour finir cette émission, je vous propose un petit jeu. Oui, parce qu'au final, j'en avais. Hein, j'ai oublié que j'avais écrit.
Elle nous a caché. Elle a dit qu'elle n'en avait pas.
Ah ah, surprise.
Voilà.
Nous aussi, on est un podcast à tiroir.
Oh mon Dieu.
Alors, mon jeu, c'est le jeu des répliques bien trop explicites.
Ah.
Et.
Crazy.
Donc je vais vous lire une réplique et il faut trouver de quel film ça vient.
Ah,
tout simplement. Okay. Alors la première, numéro uno. Mon Dieu, on m'avait plus baisé comme ça depuis l'école primaire.
Fight Club. J'ai halluciné quand j'ai entendu ça la première fois.
Qu'est-ce que...
Moi j'ai pas compris.
C'est Helena Bonham Carter qui sort on m'avait plus baisé comme ça depuis la primaire.
Alors numéro 2. Et ce soir je te fais des crêpes et après je te saute.
Oula, c'est un film français ça, non?
Si vous trouvez celui-là.
C'est un film français.
Je crois que j'en ai entendu parler.
C'est pas Full Moon? Non.
Non, c'est pas Full Moon.
Attends, des crêpes c'est quand même.
Non mais vraiment, si vous retrouvez celle-là, c'est...
J'aurais dû la mettre en dernier.
Poltergeist?
Non, non.
Non, aucune idée, franchement.
C'est dans Ensemble, c'est tout.
Ah, c'est un film français, je...
Ah mais si bon. C'est Guillaume Canet qui sort ça, Audrey Tautou.
Oui, exactement. Oui.
Non, je l'ai vu, j'avais 3 ans et demi, ce film, il date de...
3 ans et demi.
1 milliard d'années.
Est-ce que... Ouais, ok.
On a dit qu'on ne demandait pas l'âge des femmes. On a dit qu'on ne demandait pas. Je ne demanderai rien.
J'ai vu ce film, ouais.
Bon, celui-là, il est simple. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur.
Le Père Noël, tu m'as
Je te défonce, je te mets.
Non, mais attends, on va être obligé d'être interdit au moins de 12 ans sur le podcast, là.
Bah, excuse-moi, c'est horrible. Je cite des films.
C'est horrible.
C'est les moussons.
C'est de la citation.
C'est pas les moussons, là, c'est du hardcore.
Je t'encule, Thérèse, je t'encule.
Ah, ça va être. Hein?
Fais que citer.
Alors, numéro 4. Une fois en stage d'été, ben, je me suis enfoncé une frite dans la chatte.
American Pie?
Ouais.
Quelle horreur. Attends, une quoi? Une flûte?
Une flûte.
Une flûte dans la chatte.
Mais c'est pas Allison, une super idée, non? Avec le effet ventouse. Avec
c'est les... Alison Hannigan. Et la façon, en fait, c'est la façon dont elle le dit. Une fois, au camp d'été, eh ben, je me suis mis une flûte dans la chatte.
Tu vois, elle passe pour prude. Oui. Faire, me dire, tout d'un coup,
elle
te
sort. Tu sais, à chaque fois, elle sort un truc, genre, son camp d'été, elle a l'air vraiment d'une fille très, très prude. Très... Oh là 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 là, un peu comme nous, une Jeannette, tu vois. Une Jeannette, voilà, en scout. Et elle sort ça comme ça et... C'est la rupture. C'est là où je comprends que c'est elle qui va dominer après.
Et pour finir, le dernier, c'est un classique. Vous voulez un whisky? Non, juste un doigt.
Bah, c'était de la peur.
Whisky d'abord.
Voilà,
c'était la fin de mon jeu des citations bien trop explicites. Bien, merci à vous trois.
Yo.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à toi, Jadia.
Oh, merci. Bah...
Et je voulais juste finir en disant que l'histoire du Tupperware. en fait, c'est une amie qui m'avait conseillé de mettre ça dans un Tupperware.
Oui,
voilà.
Parce que tu as demandé des conseils à une amie.
Qui nous donne des conseils.
Bon, bah, allez vous rincer les oreilles maintenant et puis c'est bon.
Bah, j'espère qu'on vous a un petit peu émoustillé. Ou pas. Je sais pas trop en fait si j'ai vraiment envie de ça. Et j'espère surtout vous retrouver bien vite dans le catharsis. Au revoir.
Au revoir.
On s'applaudit.